Nous allons nous approcher de notre Seigneur, nous allons prier. Alléluia. Jésus, notre Sauveur, nous te remercions de nous avoir réunis sous l'autorité de ton nom et de ta présence, Seigneur. Tu nous as fait la grâce de te connaître et tu continues de nous faire grâce, encore ce soir, de te connaître toujours plus. Parle avec nous. Notre désir est de te connaître toujours plus, de nous approcher toujours plus de la sanctification, de l'unité de l'esprit avec toi d'abord et avec les autres. Oui, Seigneur, tu es le seul qui peut nous aider, le seul qui ce soir connaît nos cœurs. Tu connais les besoins qu'il y a dans nos cœurs, tu connais les nécessités de nos cœurs, de nos corps aussi. Tu as tout sous ton contrôle. Il n'y a rien qui t'échappe. Tu es notre Père, tu es notre Dieu qui nous a rachetés, qui nous a ramenés à toi alors que nous étions encore dans le monde, et tu nous as connus et tu nous connais toujours. Bénis cette soirée, sanctifie ta parole, sanctifie ceux qui vont parler, ceux qui vont écouter, et que nous puissions être un avec toi, avec ton esprit, avec ta parole. Oui, Seigneur, que ta bénédiction descende parmi nous, faisant en sorte que nous puissions recevoir tout de toi uniquement, encore ce soir. Nous sommes unis sous une seule tête, sous une seule autorité qui est ta parole. À toi l'honneur, l'adoration, les remerciements, Seigneur, de tout notre cœur, pour tout ce que tu fais, malgré ces difficultés autour de nous en ce moment, avec cette impossibilité même de bouger, de se mouvoir. Mais toi, tu es celui qui peut se mouvoir, qui touche les cœurs là où ils sont, dans les difficultés et dans les joies et dans les malheurs de cette terre. Mais toi, tu exauces toute prière et tout besoin. Merci Seigneur. Merci pour toutes choses. À toi l'honneur, la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse nos cœurs. Amen. On dirait que ici en Italie, on va passer en jaune, en zone jaune. On peut même pas bouger. On peut même pas bouger d'une région à une autre. On peut avoir un peu d'autonomie dans les communes, mais entre les régions, on ne peut pas. Parce que c'est pas encore clair à 100%. Nous allons voir comment le Seigneur guidera. Voilà. Nous allons nous mettre sous l'autorité de la parole. Que le Seigneur guide nos pensées, nos cœurs, dans la pleine révélation. Parce que c'est nécessaire qu'il y ait cette juste pleine révélation de l'Esprit. Et que nous comprenions ce que Dieu veut nous dire, ce que le Seigneur veut nous dire. Déjà depuis que le message est sorti, jusque maintenant, dans nos jours. Donc moi je lis la lettre circulaire du frère Franck, numéro 25, de février 1981. Le Seigneur nous a élus et il nous conduira à la perfection. Un jour, l'accusateur des frères sera précipité. Apocalypse 12, 7 à 12. Après que la troupe des vainqueurs ait été enlevée. Après que la troupe des vainqueurs ait été enlevée. Ici en italien, il y a quelques erreurs grammaticales. Excusez-moi un instant. C'est pour une petite correction grammaticale. Donc, on parle de la troupe des vainqueurs. Voilà. Donc, il y a une mauvaise traduction en italien, mais c'est bon. On dit la troupe des vainqueurs ait été enlevée. Le Seigneur continue à parler à Zacharie. Et il dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu ? L'accusation était justifiée, mais pas aux yeux de Dieu. Josué se tenait là pour remplir son office. Et à cette occasion, Satan voulait le liquider de sa fonction. Josué se tenait là pour remplir sa fonction, dans Zacharie 3. Cependant, le Seigneur lui commande de se taire. Le Seigneur commande à tous, aujourd'hui encore, de se taire, de se frapper la poitrine et de s'examiner à la lumière de Dieu. Et ça, on peut le comprendre. J'aimerais lire dans la Bible le verset de Zacharie 3. Comme ça, on a le contexte. Et on voit à quoi le frère Franck se réfère. Parce qu'on est toujours ici dans le sujet du mariage-divorce, de la position de la femme, de l'homme, etc. Voilà, etc. Donc, on va dans Zacharie. Cette parole ici. Hein. On en a déjà parlé, hein, dans Zacharie 3. Et Dieu doit nous faire grâce de faire attention les uns les autres pour être soumis à l'autorité de la parole plutôt qu'à nos pensées, au jugement, etc. S'il y a un discernement, ça c'est autre chose. Quand vraiment il y a un objectif bien précis. Sinon, le diable, il fait quoi? Il accuse comme ça, sans avoir le pourquoi de l'accusation. Donc, Zacharie 3, verset 2, et l'Éternel dit, on va prendre le premier verset, Zacharie 3, et il me fit voir Joshua, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenant à sa droite pour s'opposer à lui, pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te tente, Satan, ou te réprime. Que l'Éternel qui a choisi Jérusalem te réprime, te tente. Celui-ci n'est-il pas un tison sauvé du feu? Et Joshua était vêtu de vêtements sales, et il se tenait devant l'ange. Donc, j'aimerais déjà vous dire, voilà pourquoi, dans tous ces temps-ci, dans tous les siècles passés, durant les sept âges de l'Église, l'unique époque dans laquelle toute la parole a été remise sur le chandelier, restaurée, c'est vraiment cette époque-ci dans laquelle nous sommes, de l'Odyssée. Voilà pourquoi ce message va totalement en opposition à toutes les pensées qui ont été dans le passé durant les âges de l'Église. Et toutes ces époques étaient quand même influencé par l'Église mère, l'Église catholique de Rome. C'est pour ça qu'encore maintenant, dans les Églises, dans le message même, il y a encore des choses qui n'ont pas été nettoyées, lavées, purifiées. Parce que ça appartient toujours à cette Babylone. C'est pourquoi c'est toujours important de voir cela. Parce que l'ange messager, qui a apporté tout éclaircissement, la lumière juste, c'est le frère Branham qui a apporté ce message. Et le frère Franck écrit ici, le Seigneur commande à tous aujourd'hui encore de se taire et de se frapper la poitrine et de s'examiner à la lumière de Dieu. Ça, c'est très important. Parce que sinon, nous-mêmes, alors, on se mettrait nous-mêmes dans le jugement, l'Église elle-même. On va en lire d'autres passages. Le frère Franck continue. Ce qui est dit ensuite résonne comme la plus merveilleuse proclamation de l'Évangile. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Cependant, ce n'était pas tout. Dès ce moment, Satan l'accusateur devait revenir bredouille. Le Seigneur continua donc et dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. J'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. C'est profond, c'est merveilleux. Amen. Si on pouvait vraiment entrer, et je crois qu'on le fait, avec l'Esprit de Dieu ce soir, pour voir exactement ce que Dieu veut nous dire dans cette dernière époque, en mettant toutes choses en place, en nettoyant, renettoyant tout. et pour nous faire relever la tête, pour sortir de l'esclavage du diable et donner et que les fils et les filles de Dieu aient la liberté spirituelle. Matthieu 7.3, lisons un peu Matthieu 7.3, j'aimerais lire quelques passages. Matthieu 7.3. Comme il, là où il est écrit, et pourquoi regardes-tu le fétu qui est dans l'œil de ton frère, et tu ne t'aperçois pas de la poutre qui est dans ton œil? Voilà, ça, bon, ici on comprend tout ce que le Seigneur veut nous dire. Et aujourd'hui encore, c'est ce qui se passe malheureusement dans l'Église du Message. Bon, disons comme ça l'Église du Message. 1 Corinthiens 6, 11. Lisons aussi dans 1 Corinthiens 6, 6, 11. Donc, à partir de 9. Un peu plus haut. Ne vous y trompez pas, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, ni voleurs, ni avares, ni ivrognes, ni outrageux, ni ravisseurs, accapareurs, ni n'hériteront du royaume de Dieu. Et quelques-uns de vous, vous étiez tels, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Et voyez ce Josué, ce Yeshua, ce Josué, qui était là devant cet ange, dans Isaïe, dans Zacharie. Et il y avait là un accusateur qui était là pour l'accuser, pour lui dire qu'il avait tort, etc., etc. Et Romains aussi, 5. Je crois que c'est le frère Jean-Franco qui avait lu cela dimanche, je pense. Romains 5. Premier verset, Romains 5. Ayant donc été justifié sur le principe de la foi, ça a été fait cette chose-là. Romains 5, 1. C'est quelque chose qui a été fait, qui a été réalisé. Quelque chose, Dieu ne peut plus enlever. Cette chose est là, elle a été faite, elle est définitive. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons trouvé aussi accès par la foi à cette faveur dans laquelle nous sommes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience. Et la patience, vous voyez, un peu plus bas il est écrit, car à peine, ici au verset 6, car Christ, alors que nous étions encore sans force, au temps convenable, est mort pour des impies. Car à peine pour un juste, quelqu'un mourra-t-il, car pour l'homme de bien, peut-être, quelqu'un se résoudrait même à mourir. Mais Dieu constate son amour à lui envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors dans cette dernière époque, on peut dire que la parole a repris vie, elle a repris la juste liaison avec les fils et les filles de Dieu, en demeurant dans l'obéissance à la foi. Ésaïe 1.18, on connaît tous ce passage de Ésaïe 1.18, on le cite souvent, Ésaïe 1.18. Venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel, discutons ensemble. Si vos péchés sont comme le cramoisi, comme le rouge, comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine. Si vous êtes de bonne volonté et que vous écoutiez, vous mangerez des biens du pays. Mais c'est quelque chose de très important ici. Aussi, Romains 8, 29 aussi. ce Romains 8, 29. Moi, je me dépêche. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Voilà cette parole merveilleuse de ce passage de Zacharie 3, 2. C'est pourquoi, des fois, c'est mieux de se taire que de dire des choses qui ne sont pas conformes aux Écritures. Et on va voir plus loin pourquoi. Donc, on va continuer la lecture des écrits du frère Franck ici. Donc, voilà, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habit de fête. Il est certain que Satan ne pouvait pas tolérer que cet homme de Dieu soit vêtu de nouveaux vêtements. Conformément à la parole de Dieu, le Seigneur aura une église sans tache ni ride en ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau et revêtus du vêtement blanc de la justice que Dieu nous a donné. Et c'est le vêtement de l'épouse. Amen. Éphésiens 5. 27, 26, inutile de lire, on connaît tout cela. Donc, une épouse sans tache, sans ride, ni ride semblable, sainte, irrépréhensible, etc. C'est vrai qu'il est dit que Myriam aussi devint blanche, aussi blanche que la neige. Mais de la lèpre, elle ne put pas se taire, et par cela, elle provoqua un soulèvement contre Moïse parmi l'ensemble du peuple, dans Nombre, chapitre 12, verset 10. Aujourd'hui encore, beaucoup sont tout aussi blancs qu'elle l'a été, et pourtant il y a un groupe de sacrificateurs qui parlent avec Dieu, et cela dans l'intercession, ayant le sang de l'agneau devant les yeux, et regardant à Golgotha. Alléluia. Vous voyez, il y en a qui sont blanches comme la neige, parce qu'il y a toujours ce murmure, le fait qu'ils ne savent pas tenir leur langue. Ce qui apparemment pour moi, c'est injuste, mais qui pour Dieu est juste. Voilà pourquoi il faut faire très très attention à cela. Apparemment pour moi, ou bien pour ma Myriam ici, la chose n'était pas bien, il ne devait pas prendre cette épouse-là, il ne fallait pas prendre une étrangère, etc., etc. Vous voyez tous ces murmures qu'elle a commencé à faire. Parce qu'il s'agit de cela. Et dans Matthieu 23, 27, Matthieu 23, 27, il est écrit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Ainsi, vous aussi, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Et là, vous avez toute la série de malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Vous pouvez le lire vous-même. Et voyez comment on voit le caractère de ces personnes-là qui ne sont pas nées de nouveau et qui ne sont pas entrées pour faire partie de l'épouse de Jésus-Christ. Être lavées, être blanchies, remplies de l'esprit, etc., etc. Ça, c'est important. Donc ça, c'est clair que cette chose, on le voit encore maintenant. Que Dieu nous aide à être sanctifiés à travers la parole de Dieu. Je continue à lire. Donc, frère Franck écrit. Donc, il y a un groupe qui continue. Donc, d'un côté, il y a toujours... Oui, il y a des vierges folles d'un côté. Et puis, de l'autre côté, il y a vraiment la réalité. Il y a de vraies personnes qui marchent vraiment avec le Seigneur, qui marchent vraiment avec Dieu. Donc il y a vraiment des sacrificateurs qui parlent avec Dieu dans l'intercession et qui vraiment, ils ont le sang de l'agneau devant les yeux, regardant à Golgotha. Donc, qui disent, ils présentent le sacrifice, comme tu m'as sauvé, tu peux aussi sauver tel homme ou tel homme. C'est la troupe des rachetés qui sont revêtus de vêtements de fin lin éclatant de blancheur. Et c'est à cette troupe que nous voulons appartenir. Dieu désire que nous fassions silence là où il fait silence et que nous disions ce qu'il a dit. Alléluia. Romains 8, 33 et Apocalypse 12, 3. On peut prendre Romains 8, 33. Romains 8, 33. Romains 8, 33. Qui intentera accusation contre les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? C'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. C'est une position de foi acquise qui doit être acquise par la foi dans la parole de Dieu révélée aujourd'hui. Parce que ça fait partie de la restauration, du rafraîchissement, de la restauration de l'art de l'épouse. L'ultime, la dernière époque de l'Église. Il ne doit plus y avoir de cœurs qui se sont accusés par Satan en disant « Toi, t'as fait ça, toi, toi, toi. » C'est vrai, Dieu doit nous faire grâce de nous libérer entièrement et d'être restauré pour sa gloire. Apocalypse 12, on sait très bien ce qui est écrit aussi dans Apocalypse 12, 10, où il est écrit, ils l'ont vaincu par la parole de Dieu. Uniquement comme ça qu'on peut vaincre le diable, par la parole de Dieu. Apocalypse 12, 10. Et jouit une grande voix dans le ciel, disant, maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu. Et le pouvoir de son Christ. Car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité, et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous voyez, regardez Zacharie, ce qu'on a lu, dans Zacharie 3.2, vous vous souvenez? Ce qu'on a lu, Zacharie 3.2, il s'agit de cela. C'est vraiment ça. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. On pourrait même entrer encore plus profondément. C'est pour ça qu'il faut mourir à soi-même. Et il faut vivre de nouveau. Il faut mourir et vivre de nouveau. Parce que c'est la naissance qui fait vaincre, la renaissance qui fait vaincre la bataille. Tant qu'on est vivant en nous-mêmes, dans l'ancien homme, on ne va pas vaincre. Mais si on est de nouveau, le Seigneur vint pour nous, a vaincu pour nous. Que Dieu bénisse ton cœur. Je continue. Paul, poussé par l'esprit, le frère Franck écrit, Paul, poussé par l'esprit, commande aux femmes de faire silence. Il y a toujours cette question de faire silence, de se taire. Même dans Jude, il est écrit, si je ne me trompe pas, c'est 35, il est écrit ça aussi. Paul, poussé par l'esprit, commande aux femmes de faire silence et dit, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Vous voyez, cette chose est importante. Que les hommes, les frères, prennent leur position. Parce que si les frères prennent leur position, alors automatiquement, vous voyez, donc je mets une pause pour que vous réfléchissiez, pour faire entrer dans l'esprit. Si les frères, eux, ne prennent pas la position, la femme qui n'a pas pris sa bonne position, elle prend une mauvaise position et là c'est une erreur de sa part. Donc c'est important que ça soit comme ça, comme Dieu veut que ça reste. Car il ne leur a pas permis de parler, mais qu'elle soit soumise comme le dit aussi la loi. C'est un des ainsi dit le Seigneur de sa parole. Il ne leur est pas interdit de prier ou de prophétiser. Toutes les sœurs ne devraient-elles pas reconnaître que frère Branham, en tant que prophète de Dieu dans ce temps, devait dire la même chose de ce qu'on appelle l'égalité des droits et de l'émancipation. Donc, ce qui est du monde ici, l'égalité des droits et de l'émancipation. Donc, le frère Franck se lie totalement avec l'esprit du prophète, disant exactement la même chose. Voilà pourquoi on avait dit que le frère Branham était misogyne, était contre les femmes, etc. Mais ce n'était pas comme ça. Il mettait simplement les choses à leur place, bibliquement, pour faire en sorte que chaque chose revienne sous l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas par plaisir qu'il l'a dit, mais sur la base d'une vision et de l'inspiration permanente du Saint-Esprit. Il ne l'a pas dit par plaisir, mais sur la base d'une vision et de l'inspiration permanente du Saint-Esprit. Il le fit par amour, et cela à ses dépens, et aux dépens de son ministère, afin d'en aider d'autres. Et ça, c'est vrai. On l'a critiqué, elle a été critiquée par tout le monde, elle a été malmenée par beaucoup d'églises, beaucoup de dénominations, qui l'accusaient, oh, t'en as toujours contre les femmes, etc., etc. Donc, il disait, frère Branham, au lieu de nous dire comment il faut avoir les dons, tu ne parles toujours de sa femme. Voulons-nous, frère Franck écrit, voulons-nous nous placer aux côtés de Dieu et ne pas être un porte-parole de l'accusateur? C'est lui qui, dans l'intercession, accomplit un véritable service de sacrificateur. C'est celui qui se tient aux côtés de Dieu, lequel exécutera son plan de salut. Alléluia. Amen. Celui qui est avec Dieu, du côté de Dieu. Pas d'un frère ou d'une sœur, mais celui qui se tient aux côtés de Dieu, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Là, il y a la bénédiction. Et là, l'onction vient. Parce qu'on ne défend pas un homme ou une femme, mais on parle de la parole de Dieu. Alléluia. Je crois que c'est ça, le désir de chacun d'entre nous. Et que nous puissions glorifier le Seigneur. Amen. Ici, le frère Franck écrit une lettre circulaire. Une lettre circulaire. Donc ici, la lettre circulaire 29 du frère Franck de juin 1983. Le corps en tant que temple de l'esprit. Le corps en tant que temple de l'esprit. Frère Franck écrit, l'apôtre Paul écrit, vous savez en effet quel précepte nous avons donné, nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus, c'est que Dieu, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. 1 Thessaloniciens 4, 2 et 3. L'expression employée ici, impudicité, se rapporte à des relations sexuelles contre nature avec des hommes ou des bêtes. Lévitique 18. 22 et 23, Romains 1, 24 à 28. Ça, lisez-le chez vous tranquillement. Cette pratique a son origine dans le jardin d'Éden, à savoir dans la relation animale défendue qu'Ève eut avec le premier serpent. Toute impulsion effrénée et incontrôlée est maladive et démoniaque. Elle s'exprime en toutes sortes de convoitises impudiques qui ruinent les êtres humains. Vous voyez, toute impulsion effrénée et incontrôlée est maladive et démoniaque. Elle s'exprime en toutes sortes de convoitises impudiques qui ruinent les êtres humains. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas. Parce que justement, le premier acte sexuel a été fait avec un animal, vous voyez. Même s'il avait une forme un peu différente, une forme différente de ce qu'on a maintenant, mais c'était quand même un animal. Que Dieu nous aide à bien comprendre et à éclairer nos pensées spirituelles. Dieu a sévèrement condamné tout adultère et fornicateur. Et du reste, les villes dans lesquelles l'impudicité a été commise ont été détruites sans ménagement. car elles sont pour lui une abomination. Jude, verset 7. Donc on parle de Sodome et Gomorre ici, et d'autres villes qui ont été détruites à cause de cette violence, violence charnelle, cette violence physique, la fornication, l'adultère, etc. Celui qui veut réellement expérimenter ça, ici c'est profond, celui qui veut réellement expérimenter la sanctification de l'esprit doit renoncer à toute forme d'impureté. Car il est écrit, deux points, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a donné son Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 4, 7 et 8. Donc, si vous voulez, on le reprend dans la Bible. 1 Thessaloniciens 4, 7 et 8. Ouvrons nos Bibles. 1 Thessaloniciens 4, 7 et 8. On peut même lire à partir du verset 6, à partir du 6, que personne ne circonvienne son frère, ni ne lui fasse tort dans l'affaire, donc fasse des fraudes, etc. Parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme aussi nous vous l'avons dit précédemment et affirmé. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais dans la sainteté. C'est pourquoi celui qui méprise ne méprise pas l'homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Amen. Alléluia. Vous voyez comment Dieu est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui ne veut pas l'impureté. Il ne veut pas. Il veut qu'il y ait vraiment la sainteté comme lui est saint. Que les autres soient aussi saints. Son peuple soit saint aussi. Et je continue, quant à l'amour fraternel, etc., etc. Dieu nous a appelés vraiment à cela, à être, disons, dans notre esprit, dans nos pensées, dans notre manière de s'habiller, dans notre manière d'agir. C'est comme ça que ça se manifeste, la sainteté. Mais c'est pas surtout extérieur, mais c'est surtout intérieur, facteur intérieur. C'est surtout un facteur intérieur, parce que de l'abondance du cœur, c'est de ce qu'il y a à l'intérieur que l'extérieur s'habille, se vêt, se revêt. Ça, c'est important. Donc, le frère Franck continue ici. Celui qui a lu les Écritures sait pertinemment que dans des situations les plus diverses, plusieurs hommes de Dieu sont tombés, mais qu'en aucun cas, on ne peut imputer à l'un d'eux la faute d'avoir commis l'impudicité. Vous voyez ? Dans le passé, les églises pentecôtistes, dans les églises baptistes, dans les églises dénominationnelles, il y avait toujours cette confusion. Aujourd'hui, il y a la clarté. Et on mélangeait tout. Et c'est vrai que certains serviteurs de Dieu se sont achoppés à certaines situations. Et alors, ils ont eu des remontrances, si on peut dire comme ça. Comment est-ce qu'on peut dire de... Voilà, des corrections, des remontrances, disons. Que Dieu fasse grâce. Donc je le dis de tout mon cœur. Cette dernière époque de l'Église, où Dieu a rafraîchi tout jusqu'au... c'est seulement l'élu. Il a restauré toute chose et c'est seulement l'élu qui est dans l'esprit, qui peut comprendre ce que Dieu a fait dans cette dernière génération et pour l'Église de Jésus-Christ. Quelque chose de glorieux, de merveilleux. Amen. Donc je continue la lecture. Déjà, avant que Dieu ne donne la loi, les serviteurs de Dieu savaient ce qui était juste ou non, bien que cela n'eût pas encore été écrit. Vous voyez, vous comprenez ça dans l'Ancien Testament. Les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, etc., etc., Joseph, tous ces gens-là. même s'il n'y avait pas encore la loi écrite, mais ils l'avaient écrite dans leur cœur. On peut le lire dans Romains, de leur conscience, dans leur libre arbitre. Et c'est dans ce libre arbitre, ils avaient choisi de suivre les traces de Dieu, la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, la foi. Ils avaient choisi la foi. Ils avaient choisi. Il est vrai qu'ils étaient prédestinés par Dieu, mais eux-mêmes, dans leur décision personnelle, ils savaient ce qui était juste et faux. Mais ils ne voulaient pas faire ce qui était faux, même si parfois ça arrivait et ils faisaient des erreurs. On peut parler de tout le monde, d'Abraham, d'Isaac, etc. Voilà. Donc c'est important. Donc celui qui a lu les Écritures sait pertinemment que... Déjà avant que Dieu ne donne la loi, les serviteurs de Dieu savaient ce qui était juste ou non, bien que cela n'eût pas encore été écrit. Nous lisons au sujet de Joseph, qui ne s'est pas rendu coupable d'adultère lorsque la femme de Potiphar voulait le séduire à n'importe quel prix. Il dit, Joseph, « Il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. » Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? Genèse 39, verset 9. La parole de Dieu dit au sujet de l'adultère, « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. » Lévitique 20, verset 10. Lévitique 20, 10. Frère Branham a dit, « Cette loi introduite par Dieu est valable également pour les croyants et les incrédules. » Il a fait mention d'un homme qui exerçait les dons de l'esprit et qui avait deux enfants avec une femme déjà mariée. Vous vous souvenez le discernement que Dieu l'avait donné au frère Branham au tout commencement, avant même que lui-même ait reçu le Saint-Esprit. Vous voyez, il avait déjà ce don-là, de discernement. Dans de tels cas, il ne peut pas être question de sanctification, même si l'onction du Saint-Esprit, attention ici, même si l'onction du Saint-Esprit est présente. Vous voyez, on ne peut pas parler de sanctification ici, parce que Dieu connaît les cœurs. On va lire d'autres passages des Écritures. Dieu connaît toutes choses. Matthieu 7, 21. Lisons Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Donc, qu'est-ce que c'est la sanctification? Comment est-ce qu'elle se manifeste? Comment est-ce que ça vient dans nos vies? Il est écrit ici. Matthieu 7, 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Et si vous lisez « Oh, on a fait ça, on a fait ça, on a fait soi. » On a fait ça, on a fait ça. Donc il y en a, et avec frère Branham, il y en avait un qui était dans la sanctification, mais l'autre, il n'avait qu'une onction. L'onction était partie après. Donc il n'y avait pas de sanctification. La sanctification, c'est quand vraiment le Saint-Esprit demeure sur la personne, comme on l'a dit dimanche. Alors là, il y a un changement. Dans le cœur, dans l'âme. Et là, on se met sous l'autorité de la parole de Dieu. Alléluia. Aussi, Jacques. Lisons dans Jacques. Jacques 1. Des paroles qu'on connaît, mais qui rentre bien dans ce thème. Jacques 1, verset Voilà, en fait, c'est ici plutôt le 23. Jacques 1, 23, car si quelqu'un écoute la parole, donc 22, mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement en vous séduisant vous-même. Vous voyez? Il ne faut pas seulement avoir une onction momentanée. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir. Lisons aussi dans Tite, un peu en arrière, Tite 1, 16. Ou à partir du 15. Tite 1, 15. Toutes choses sont pures pour ceux qui sont purs. Mais pour ceux qui sont souillés et incrédules, rien n'est pur. Mais leur entendement et leur conscience sont souillés. Ils professent de connaître Dieu. Mais par leurs œuvres, ils le renient, étant abominables et désobéissants, et à l'égard de toute bonne œuvre réprouvée. Tite 1, 15 et 16. Vous voyez? Ils font profession de connaître Dieu, mais par leurs œuvres, ils le renient. À cause de leur propre vie. À voir comment ils agissent avec leur vie. Donc, ils agissent. Donc, ils sont abominables et désobéissants à l'égard de toute bonne œuvre. C'est grave. Parce qu'il n'y a pas le parallèle entre la personne, donc la bouche de celui qui parle, et la bouche qui dit qu'il est, et la vie qu'il pratique. C'est deux choses différentes. Mais Dieu nous fait grâce là-dedans. Donc je continue à lire, le frère Franck, dans Lévitique 19, 29, et dans d'autres passages encore, le Seigneur interdit qu'une fille soit profanée en faisant d'elle une prostituée. Donc c'est pour ça que, à la suite de ce qu'on a dit, donc on a dit au-dessus, maintenant on va continuer, on avait parlé des animaux, maintenant on parle d'autre chose. Le Seigneur interdit qu'une fille soit profanée en faisant d'elle une prostituée. Tout homme qui a des relations aujourd'hui avec une femme et demain avec une autre commet la fornication. Nous ne devons pas tout mettre dans le même panier. Dans notre temps précisément, le Seigneur a donné une pleine clarté sur toutes choses. Certains voudraient, quant à leur propre corps, vivre selon leur propre sanctification. Faites attention, ce sont des paroles très précises, profondes, et qui vont droit au cœur. Certains voudraient, quant à leur corps, vivre selon leur propre sanctification, et ont ainsi une opinion exagérée de leur propre mérite. Oh, c'est moi qui me sanctifie, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. Ce sont des œuvres personnelles. La gloire va à l'homme. Mais ensuite, à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et si on s'approche de la personne, on voit que ça ne va pas. Donc, vivre selon leur propre sanctification est aussi une opinion exagérée de leur propre mérite. Une sanctification de l'âme, de l'esprit et du corps, agréable à Dieu, ne peut s'accomplir que dans les âmes épouses rachetées par le sang et baptisées de l'esprit, parce qu'elles croient la parole. On va relire cette phrase. Une sanctification de l'âme, de l'esprit et du corps, agréable à Dieu, qui plaise à Dieu, ne peut s'accomplir que dans les âmes de l'épouse, rachetée par le sang et baptisée de l'esprit, parce qu'elle croit la parole. Alléluia, vous voyez? Ça ne doit pas être un homme religieux du dimanche. Vous savez comment c'est? C'est moche à dire, mais des fois, on prend une position extérieurement, d'homme pieux, d'homme sanctifié, mais en réalité, à l'intérieur, ils ne remplissent pas ce rôle. Moi, je l'ai connu, ça. même à Krefeld, partout, dans divers endroits, chez beaucoup de frères, et des formes extérieures, mais à l'intérieur, qui l'extérieur ne correspond pas à ce que eux-mêmes disaient et qu'ils voulaient montrer. C'est important. Donc ça ne doit pas être un homme du dimanche. Regardez un peu, regardez le pape. On va y arriver. Regardez le pape. La veste qui le couvre, c'est une veste, on dirait sanctifiée, mais enlevez la veste du pape. Et regardez avec les yeux spirituels. Parce que Dieu nous dépouille, Dieu nous dépouille, il voit les secrets des cœurs avec ses yeux. La carcasse qu'on a, la veste extérieure, Dieu voit à l'intérieur. On peut prendre n'importe quelle veste religieuse, mais lui, il voit à l'intérieur. Parfois, comment dire, il y a des situations, mais pourtant, Dieu voit tout. Que Dieu nous aide à être ceux que nous devrions être selon la parole de Dieu. C'est important. On va lire quelques passages. 1 Pierre 3, 3. 1 Pierre 3, 3. Juste pour voir ce qui est vraiment la sanctification. 1 Pierre 3, 3. Ici, on parle des femmes, mais c'est un verset clair pour dire qu'est-ce que voit le Seigneur. 1 Pierre 3, 3. Vous, les femmes, dont la parure ne doit pas être une parure extérieure, qui consiste à avoir les cheveux tressés et à être parées d'or, à y habiller de beaux vêtements, mais la personne cachée, l'homme caché du cœur, dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible. Un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Allons dans Romains 1. Romains 1. Et on rentre vraiment dans ce qu'est la sanctification de Dieu. Romains 1. Je crois que c'est 28, 29, 28, Romains 1, 28. Et comme ils n'ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé pour pratiquer des choses qui ne conviennent pas, étant remplis de toute injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, etc. Regardez au 32. Et qui, ayant connu la juste sentence de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement qui les pratiquent, mais encore trouvent leur plaisir en ceux qui les commettent. Ça, c'est important. Amen. Lisons aussi dans Romains, chapitre 7. Il rentre plus profondément au verset 20. Romains 7, on commence par 19. Romains 7, 19. Car le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, moi, je le pratique, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Vous voyez? Le mal qui habite encore en moi. Je trouve donc cette loi pour moi, qui veut pratiquer le bien, que le mal est avec moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme intérieur. Au-dedans de moi. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Vous voyez, dans mes membres une autre loi. Et ça, c'est grave. Une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. C'est l'homme intérieur qui doit changer. Vous comprenez ? Ça, je crois, on l'a toujours dit. On l'a toujours présenté comme cela. On l'a toujours confirmé. C'est important. Et si on va au chapitre 8, on parle de la libération totale. Il n'y a pas d'autre loi que la loi de Christ, l'esprit de vie. Vous pouvez lire au 8, 2. Romains 8, 2, où il est écrit, la loi de l'esprit de vie dans Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est glorieux, c'est spécial. On peut avoir la victoire. Dieu nous a donné la victoire. Le message qui est restauré, la lumière qui est remise sur le chandelier, nous a éclairé sur la position de l'homme et de la femme. Et il faut servir Dieu en esprit et en vérité. Il faut prier le Seigneur en esprit et en vérité. 2 Corinthiens aussi, lisons aussi dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Deux Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne nous lassons point. Mais même si notre homme extérieur dépérit, se défait, se dépérit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Voyez, on parle toujours de l'intérieur. On ne parle pas de sainteté extérieure. Ce que le frère Franck veut nous montrer ici, ce que Dieu veut nous montrer, ce n'est pas quelque chose extérieur à nous qui se présente à nos yeux, mais ça doit être à l'intérieur, en toi. Car notre légère tribulation, ou affliction, d'un moment opère pour nous, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire, nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas. Car les choses, donc nous, on n'a pas nos regards sur les choses fixes, sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Amen. C'est important qu'il ait cette prise de position, de comprendre que moi, Dieu voit les cœurs, Dieu connaît les cœurs, les pensées des cœurs. Alléluia. Encore aussi un autre passage de Colossiens aussi. Dans Colossiens 3, au chapitre 3. Colossiens au chapitre 3. Chapitre 3, 9 et 10. Colossiens 3, 9 et 10. Ne mentez pas, ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions, et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, où il n'y a pas grec et juif, circoncision et incirconcision, barbare, scythe, esclave, homme libre, mais où Christ est tout et en tous. Amen. Est-ce que cette parole rentre bien dedans? Donc il faut revêtir le nouvel homme, renouvelé en connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Alors, nous, où est-ce qu'on veut aller? Où est-ce qu'on veut aller? Genèse chapitre 1, c'est quoi l'image? Donc, Dieu a créé l'homme à son image et sa ressemblance. Donc il faut revenir, il faut rentrer à nouveau parfaitement dans ce que Dieu a voulu. Qu'on soit. Le péché est rentré, il s'est introduit, l'incrédulité est arrivée, mais Dieu a rafraîchi toutes choses, il a remis toutes choses sur le chandelier, une vérité absolue. L'homme doit vivre pas que de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Je continue à lire, le frère Franck ici écrit, au cours des siècles, l'Église catholique a mis l'empreinte de son concept de morale. Faites bien attention. L'Église catholique a mis l'empreinte de son concept de morale, lequel a été plus ou moins repris par les Églises sorties d'elle. Est-ce qu'elles ne sont pas toutes sorties de l'Église catholique? Le frère Branham l'a expliqué, le message est clair, ils sont tous sortis de là. La grande mère, la mère des prostituées, toutes les Églises protestantes sont toutes sorties de là. Et toutes ont repris avec elles des enseignements qu'ils ont gardés de l'Église catholique de Rome. Que Dieu nous fasse grâce d'entrer parfaitement dans les pensées de Dieu. Voilà pourquoi il faut un rafraîchissement total, il faut un changement et une restauration totale. Donc l'Église catholique a mis l'empreinte de son propre concept de morale, lequel a été plus ou moins repris par les Églises sorties d'elle. Et c'est à tort que l'on se réfère à ce sujet en disant que ce sont les Saintes Écritures. Souvent, les personnes qui ont contrevenu à de telles doctrines, par exemple concernant le mariage, divorce, etc., sont traitées sans ménagement et avec dureté dans les Églises. Et elles sont exposées au jugement et condamnées. Vous comprenez ? Parce qu'il y a toujours cette vieille racine, toujours cette, oui, on va dire racine qui est là, qui n'est pas encore partie, elle n'est pas encore partie cette racine. Ainsi, il arrive qu'on les exclue pour un certain temps de la Sainte Cène, etc. Et ça c'est vrai, vous comprenez ? Vous voyez comment on rentre dans le détail de la connaissance juste ? On appelle cela, aujourd'hui encore, la discipline de l'Église, entre guillemets. La discipline de l'Église. Vous voyez, des soi-disant belles paroles, discipline de l'Église, oh, c'est une belle parole. Mais, en fait, par manque de connaissances, elles sont traitées comme des lépreux. Mais nous soumettons à la discipline de l'Esprit, laquelle s'aligne uniquement sur la parole de Dieu. Alléluia, vous êtes la discipline de l'Église, ou des nations n'a rien à voir. C'est seulement la conduite du Saint-Esprit qui existe. Juste ? Alléluia. C'est seulement la conduite du Saint-Esprit qui existe. Lisons un peu Proverbe 23-25. Proverbe 23-25. Il y a ensuite d'autres passages. Ensuite, Proverbe 23. Et en français, c'est le 26. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent à mes voix. Mon fils, donne-moi ton cœur. Stop. Vous voyez, ça, c'est la chose importante. Car la prostituée est une fosse profonde, etc. Et aussi dans 1 Roi 8:39. Pourquoi est-ce qu'on lit les passages des Écritures ? On lit les passages des Écritures pour confirmer ce que l'Esprit a dit dans ces derniers temps, que le Seigneur est en train de revenir, que c'est ainsi, dit le Seigneur, que c'est la vérité, que la lumière a vraiment été mise sur le chandelier. Et béni et honoré du Seigneur, et même glorifié, comme il est écrit dans Romains, ceux qui acceptent et qui se soumettent, et qui se mettent en ordre devant la parole de Dieu. Donc je parle de manière générale. On a dit un roi, 8:39. On parle de la maison du Seigneur. Alors on parle. Voilà où il est écrit. Alors toi, écoute dans les cieux le lieu de ton habitation et pardonne et agis et donne à chacun selon toutes ses voies, suivant que tu connais son cœur, car tu connais toi seul le cœur de tous les fils. Toi seul, tu connais le cœur de tous les fils des hommes, afin qu'ils te craignent tous les jours qu'ils vivront sur la face de la terre que tu as donné à nos pères. Alléluia. Vous voyez ? Le cœur de tous les fils des hommes, Dieu les connaît. Dieu sait toute chose. C'est vraiment important que ça devienne une réalité divine, la sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire sanctification ? On le sait, on l'a déjà lu, le frère Franck l'a déjà dit, et le dictionnaire l'a déjà dit, être à part pour servir Dieu, pour un service. Être à part pour un service. Ayant été purifié par le sang de Jésus-Christ, nettoyé. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je vous donnerai un cœur nouveau. On l'a lu. Ce cœur nouveau, ça veut dire la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ça vous fait aimer tout ce qui est de Dieu, tout ce que Dieu a fait. Dieu vous le fait aimer, vous le fait désirer. Et il est écrit, je mettrai mon esprit dans leur cœur. Vous voyez? C'est merveilleux. Merveilleux. Il y a encore beaucoup d'autres passages comme ça. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, on veut être sincère, véridique, vrai. C'est nécessaire que ce que nous professons avec la bouche, qu'on puisse aussi le vivre. Alléluia. On puisse le vivre. Il est vrai que dans ce monde-ci, avec le travail, là où on est, au travail ou bien dans l'école, n'importe où, parfois c'est difficile. Mais n'oublions pas cette précieuse parole qui dit, dans Romains, Paul qui dit, nous sommes dans ce monde, mais on n'est pas du monde. Il faut bien vivre, il faut utiliser, faire usage de ce monde. C'est normal, c'est juste, c'est vrai. Mais on est complètement hors. Ne vous asseyez pas avec les moqueurs. Voyez, psaume 1, voyez, il y a beaucoup de passages qui viennent, etc. On continue à lire. Frère Franck dit, Dieu a envoyé un prophète, attention, qui a remis toutes choses à leur juste position et qui a placé à nouveau sur le chandelier la signification originale de la parole de Dieu. Je relis cette phrase, très important. Dieu a envoyé un prophète qui a remis toutes choses à leur juste position et qui a placé à nouveau sur le chandelier la signification originale de la parole de Dieu. Alléluia. Vous voyez? C'est important que cette chose puisse entrer, qu'il y ait un changement. Et c'est normal que cette dernière époque, Dieu a fait en sorte que toutes les scories, tout ce qui avait été placé dans les autres, et époque de l'Église, toutes ces choses-là, toutes les scories, les saletés qu'ils avaient apportées avec eux, cet âge-ci, tout a été purifié et tout a été remis à sa place. C'est glorieux, c'est spécial. Est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes participant de cette action de Dieu, dans votre vie, dans notre vie, à nous? Complètement participant. Abandonné et sûr qu'on a accepté, pas seulement le prophète, mais surtout ce message, le message qui sortait de sa bouche pour préparer la seconde venue de Christ, comme Jean-Baptiste a fait pour la première venue du Seigneur Jésus-Christ, vous voyez? Donc voilà les choses principales et importantes. Matthieu 17, 11, Malachie 4, 5, on connaît tout cela. Apocalypse 3, 14, l'époque de l'Odyssée, la dernière époque. Voilà pourquoi il est écrit celui qui vaincra, c'est glorieux, amen. Dieu nous donne cette possibilité de dire, je veux vivre, celui qui veut vivre, vaincre. Cette sanctification est seulement dans les épouses, dans les âmes de l'épouse, rachetées, baptisées du Saint-Esprit, parce qu'ils croient la parole de Dieu, amen. C'est important. Donc, je continue la lecture. Dieu a passé par-dessus les temps d'ignorance. Dieu a passé par-dessus les temps d'ignorance. Même ça aussi, attention. Vous savez, le monde dit que on n'est pas censé ignorer la loi. Et aussi dans les Actes des Apôtres, on voit au chapitre 17, verset 30, on peut trouver, on va le lire ici, Actes 17, où Paul rend témoignage de ce que Dieu a fait. Actes 17, 30. Donc avec ce Dieu inconnu, ils avaient une statue, un Dieu inconnu. Et donc Paul a dû intervenir. il a dû intervenir. Verset 29. Et donc, acte 17, 29. Étant donc la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre, à une œuvre sculptée de l'art et de l'imagination de l'homme. Mais Dieu, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous en tout lieu se repentent, parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée par l'homme qu'il a destiné à cela. De quoi il a donné une preuve certaine à tous, ayant ressuscité d'entre les morts, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les temps d'ignorance sont finis. Parce que le Seigneur a visité son peuple. Le Seigneur a visité son peuple. L'ange messager de la dernière époque. Vous voyez? Il a distribué des bénédictions, il a distribué la vérité, la lumière, la clarté sur tout ce qui était dans le passé erroné, et il a remis tout à sa place. Comment ne pas croire à la restauration de l'arbre de l'épouse de Jésus-Christ? Comment ne pas croire à cela? Nous devons croire que Dieu a tout remis sur le chandelier. On continue la lecture, le frère Franck écrit ici. Après que frère Branham, en vertu de la révélation divine, a exposé clairement et sans interprétation l'état de l'homme et de la femme, du point de vue biblique, nous ne pouvons plus prendre pour critère les enseignements de la morale religieuse, les traditions, l'enseignement catholique, les pensées propres, la propre justice, être juste, propre justice. Tu dois faire ça, toi t'as fait ça, tu n'es pas ça, toi tu dois faire ça. Ça, Dieu l'a complètement mis à part et l'a nettoyé. Il a complètement nettoyé tout cela. Il a remis sur le chandelier la vérité. Alléluia, amen. C'est merveilleux. Quand on voit ça, on dit merci. Seigneur, vraiment, tu nous as fait vraiment grâce. Tu dois illuminer les yeux de nos cœurs, l'homme intérieur. On continue à lire. Donc nous ne pouvons plus prendre pour critère les enseignements de morale religieuse. Ce sujet est pour beaucoup de gens encore peu clair. Sans cesse, on nous demande, est-ce qu'un divorcé peut prendre part à la Sainte Cène? Peut-il se remarier? Peut-il prêcher? Nous n'avons apparemment pas remarqué que cette notion de divorcé n'apparaît pas une seule fois dans la Bible. Attention, la notion de divorcé n'apparaît même pas une seule fois dans la Bible. Si quelqu'un y trouve une indication relative à un divorcé, qu'il vienne alors me lire ce passage. Dans les Saintes Écritures, ce mot ne s'y trouve même pas. Il y a seulement des indications pour une femme séparée. Jamais dans la Bible, il n'y a de commandement ou de défense pour un divorcé. Parce que ça n'existe pas. Cela se trouve tout au plus dans les préceptes et règlements d'Église et de communautés qui plongent leurs racines dans le terrain romain. Vous voyez, ils ont leurs propres racines dans le sol romain, dans le terrain romain. Devant Dieu, l'homme n'est jamais et dans aucune circonstance considéré comme divorcé. Parce que Dieu n'a pas été contre cela. Il est vrai, Matthieu 19, je vous ai dit qu'on va beaucoup revenir dans Matthieu 19. Matthieu 19, il y en a qui disent divorce, mais pour Dieu, celui qui est avec une femme, avec sa femme, son épouse, voilà, il est marié. Bon, bien sûr, il y a des circonstances qui viennent après, mais voilà, l'argument c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on dit au commencement, c'était pas comme ça. dans Matthieu 19, 5 ou 4, 4. Et lui répondant leur dit, n'avez-vous pas lu que celui qui les a fait, dès le commencement, les a fait mâle et femelle, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, et sera uni à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ils lui disent, pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier? Il leur dit, Moïse, à cause de votre dureté de cœur, pas Dieu, Moïse, on a donné une permission. Moïse, à cause de votre dureté de cœur, vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi, vous voyez? Et je vous dis que quiconque répudiera sa femme, sauf pour cause de fornication, et en épousera une autre, provoque adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet adultère. Et ça, c'est clair, c'est écrit. Il ne faut pas l'enlever. C'est écrit. On ne peut pas l'enlever. Il est vrai qu'il y a encore des cas spéciaux. C'est merveilleux. Il y a des choses qui sont profondes, détaillées, précises. Mais ce qui est écrit, c'est écrit. Elle ne veut pas faillir. Voilà pourquoi Dieu ne reconnaît pas le divorce. Il n'y a pas une parole « divorce, un homme divorcé » dans les commandements de Dieu. Oui, toi tu peux laisser, toi tu peux, toi... non. Surtout, comme on l'a dit, pour la femme c'est important. Pour la femme c'est important. On continue à lire. Donc, jamais dans la Bible, il n'y a de commandement ou de défense pour divorcer. Cela se trouve tout au plus dans les préceptes et règlements d'église et de communauté qui plongent leurs racines dans le terrain romain. Devant Dieu, l'homme n'est jamais et en aucune circonstance considéré comme divorcé. On l'a lu ? C'est écrit. Il s'agit maintenant d'enlever le dernier reste de levain catholique romain. Et de nous éprouver, donc il s'agit d'enlever le dernier reste de levain catholique romain, et de nous éprouver pour savoir si, en toute chose, nous croyons seulement ce que Dieu dit. Celui qui continue comme si Dieu n'avait pas parlé, et qui maintient toute sa manière de voir non biblique, c'est qu'il n'a pas réellement reçu dans son cœur la parole. Et à cause de cela, il ne pourra pas expérimenter la sanctification. Alléluia. Considérez bien cette parole, parce que c'est vrai, c'est profond. Cette parole est importante. Je relis. Celui qui continue comme si Dieu n'avait pas parlé et qui maintient toute sa manière de voir non biblique, c'est qu'il n'a pas réellement reçu dans son cœur la parole. Et à cause de cela, il ne pourra pas expérimenter la sanctification. Bien que beaucoup de personnes prétendent ne croire que la parole, elles soutiennent en réalité des siècles de vieilles traditions. Lisons un peu dans Ésaïe 48, 20. Lisons Ésaïe 48, 20. C'est important aussi d'appeler les choses par leur nom, avoir la révélation de ce que Dieu aujourd'hui est en train de faire et a fait pour mettre toute chose à sa place. Et pour faire cela, comme on l'a entendu, si on reste sur ce terrain-là, dans nos pensées attachées à la racine babylonienne, l'Église romaine, on ne pourra jamais accéder à la sanctification. On ne pourra jamais être mis à part pour servir Dieu. Non, on ne pourra jamais le faire. On sera toujours dans un mélange. On sera toujours sous une influence étrangère. Il faut se libérer des traditions, de toutes ces choses qui proviennent de Babylone, c'est important. Voilà pourquoi il est écrit sortez de Babylone, sortez de Babylone. Ce n'est pas seulement le corps qui doit sortir des églises, du monde, de la confusion, oui, oui. Mais c'est le corps, c'est le cœur, pardon, c'est le cœur, c'est l'âme qui doit se séparer. Il est écrit, Ésaïe 48, 20, sortez de Babylone. Fuyez du milieu des Chaldéens avec une voix de chant de joie. Déclarez et faites entendre ceci. Portez-le jusqu'au bout de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Et ils n'ont pas eu soif quand il les a fait marcher dans les déserts. Du rocher, il a fait jaillir pour eux les eaux. Il a fendu le rocher et les eaux ont coulé. Il n'y a pas de paix, dit l'Éternel, pour les méchants. Aussi Jérémie 5 aussi. Beaucoup, beaucoup de passages des Écritures. Donc c'est nécessaire qu'on sorte entièrement, entièrement, entièrement de Babylone. Et vous, nos papas, nos pères, nos mères, ils nous apprennent une certaine morale. Mais il y a toujours une racine romaine, des racines étrangères qui n'ont pas de fondement biblique. Alléluia. Je continue à lire. Celui qui ne croit. Donc on va lire après au roi. Celui qui ne croit que ce qui lui plaît est loin de croire ce que dit l'Écriture. Nous devons enfin comprendre que Dieu n'a pas envoyé son prophète dans ce temps pour que nous continuions sans autre à maintenir ce qui avait été enseigné dans les générations précédentes. C'est précis, c'est clair. Et pourtant, cette lettre, mes amis, cette lettre circulaire du frère Franck date de la numéro 29 de juin 1983. Mais regardez combien d'accusations a subi cet homme de Dieu qui se trouve à Krefeld. Combien d'accusations le frère Franck a subi. Pas que lui, mais d'autres encore. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont reçu beaucoup d'accusations. Pourquoi ? Parce que l'esprit humain, la pensée humaine, le cœur était toujours attaché à des traditions romaines et religieuses. Voilà où est la chose. Donc c'est important cette parole. Nous devons enfin comprendre que Dieu n'a pas envoyé son prophète dans ce temps pour que nous continuions sans autre à maintenir ce qui avait été enseigné dans les générations précédentes. Mais nous devons comprendre que son service était destiné à faire sortir le peuple de Dieu de Babylone et de toute tradition, afin de nous ramener à l'absolu de la parole de Dieu. Ce n'est pas en vain que le Seigneur est descendu sur la nuée de la gloire et qu'il a parlé. Prenez un peu un roi et regardez comment les passages des Écritures s'illuminent, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Dans 1 Roi, chapitre 18. Regarde un peu ce qu'a fait Élie dans ce temps-là. Regardez un peu l'Élie de ce temps-là et notre Élie de notre temps. Regardez 1 Roi 18. Comment l'autel a été restauré. Il avait mis ses 12 pierres sur cet autel. C'est dans le verset 31. On va pas tout lire, hein, quelques versets. Et il répara l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et Élie prit 12 pierres selon le nombre des tribus des fils de Jacob. L'autel a été remis à sa place, restauré. La parole de Dieu était là. Et aussi, on voit comment l'Élie de ce temps-là. Il se moquait, pardon, il a, comment dire, voilà, il les a mis au défi, il s'est un peu moqué d'eux. Ah, faites-moi voir votre Dieu, il s'est un peu moqué de Dieu. Et le frère Barnabas, des fois, il a fait cela. Quand on l'a accusé, il a lancé un défi aussi. Et c'est pour ça qu'il disait, attention, il disait souvent, Jean 14, 12, il le répétait. Vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. Marc 16. Il répétait souvent cela. Celui qui croit, comme le dit les Écritures, celui qui accepte d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, les manifestations viendront parce qu'il croit réellement. Et alors il a lancé un défi. Et là, cette Élie là, ici, qu'on lit ici, il a fait la même chose, comme notre Élie de notre temps du XXe siècle, qu'il a lancé des défis à ces gens-là. Il a fait la même chose. Et ils devaient rester avec leur bouche fermée. Quand il y avait ce concile des serviteurs de Dieu, et le Seigneur l'avait déjà prévenu, vous vous souvenez, que Dieu lui a dit qu'il va y avoir un piège. Ils t'ont tendu un piège. Et le frère Branham les a tous remis à leur place, en disant « Ainsi dit le Seigneur, parce qu'ils ne voulaient pas accepter le baptême du Seigneur Jésus-Christ, et d'autres choses encore. » Donc on voit que Dieu a confirmé du ciel, dans le verset 37, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, et que ce peuple sache que toi, Éternel, tu es Dieu, et que tu as ramené leur cœur. » C'est là qu'il y avait la preuve. Vous voulez aller avec Baal ou avec Dieu? Et Dieu devait prouver qu'il était là, avec lui. Et Dieu l'a prouvé. Et aussi dans notre dernière génération, Dieu a prouvé que Dieu était là aussi. Il était là aussi. Vous y êtes? Ça c'est vrai. Amen. Quand il a eu le défi lancé au frère Bosworth. C'est soi-disant guérison, c'est que de la télépathie, tout ça. Finalement, le frère Branham, il ne voulait pas y aller. Mais finalement, il a été, il s'est présenté. Et là, le Seigneur lui-même l'a défendu et la colonne de feu est descendue. Voilà, le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, dans cette dernière époque, dans cette époque de l'Odyssée, l'épouse de Jésus-Christ l'a reçu et le recevra encore. Elle doit encore le recevoir. Il va y avoir une pluie qui va descendre aussi. C'est la confirmation d'en haut. Dieu confirme l'épouse de Jésus-Christ. Vous y croyez? Amen. C'est ce qui doit se passer. C'est ce que Dieu fera. Voilà la différence. Et il est écrit, « Et le feu de l'Éternel tomba, et consuma l'holocauste et le bois et les pierres et la poussière et les chaloux qui étaient dans le fossé. Et tout le peuple le vit et tombèrent sur leur face et dirent, l'Éternel c'est lui qui est Dieu. » Amen. Comme on l'a dit dimanche, où est le Dieu d'Élie? Vous voyez? Que le Seigneur enflamme vos cœurs, je l'ai dit de tout mon cœur, pour montrer qu'aujourd'hui, Dieu a envoyé une parole directe de rafraîchissement, de restauration, et il faut l'écouter, il faut l'écouter. Notre vie doit être... Donc si on meurt, il nous ressuscite. Mais si on ne meurt pas à nous-mêmes, on reste toujours nous-mêmes, on reste toujours l'ancien homme. Il faut mourir à soi-même. Qui voulons-nous servir, Dieu ou Balaam? C'est la même chose. Encore aujourd'hui, c'est la même question qui se pose. Que Dieu nous aide et nous fasse grâce. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Donc c'est nécessaire. Même si ça a lieu à Azusa Street, même là, à l'époque, où le baptême du Saint-Esprit a été restauré et revenu. Des dons étaient revenus. Les dons étaient revenus, mais ils étaient toujours dans la confusion. Il n'y avait pas toute la clarté. Et le Seigneur, après, a mis toutes choses à leur place. Dieu l'a voulu. Il y a eu aussi, le 28 février 63, il y a eu un Élie, en 1933, pendant qu'il y avait le baptême. Quand, pendant que le frère Branham baptisait la 17e personne, il y a une voix qui est venue du ciel. Lève les cieux au ciel, lève les yeux. Lève les yeux. On a une confirmation claire. Et on ne peut pas se retirer en arrière. C'est une vérité absolue. On a eu la visitation, vraiment, on l'a eu d'en haut. Vous voyez ? Et les sept sceaux aussi ont été ouverts, sans problème. Donc je continue ici la lecture. Ce n'est pas en vain que le Seigneur est descendu sur la nuée de la gloire et qu'il a parlé. Assez longtemps, la parole avait été rendue sans force. Attention, attention. Elle avait été rendue sans force. Vous voyez ? Que le Dieu nous donne vraiment la force. C'est juste onction à chacun d'entre nous de réaliser que la parole aujourd'hui a la force en elle. Il y a encore d'autres passages. Dieu doit nous faire grâce de la rendre vivante comme Dieu est vivant. Amen. Assez longtemps, la parole avait été rendue sans force. Elle est, à nouveau, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre et sépare. Alléluia. Pensez un peu. Une lame de couteau, bien une lame aiguisée. Ou bien une lame qui n'est pas aiguisée, qui est émoussée. Si vous touchez une lame qui n'est pas aiguisée, émoussée donc, ça fera pas mal. Mais si vous l'aiguisez, ça, vous allez vous couper. Et dans ces derniers temps, malgré tout, la lame était toujours un peu émoussée, elle n'était pas bien aiguisée. Elle était... Mais maintenant, l'épée est aiguisée de façon que si on la touche, ça va faire mal. Parce qu'il est écrit qu'elle pénètre jusqu'à la moelle des os, séparant la moelle des os. Ça fait mal. Et ça doit faire mal. Si ça ne nous fait pas mal, ça veut dire que la lame est émoussée. Et on voit, on entend autour de nous que les lames ne sont pas précises. Et ça ne touche pas le cœur. Mais la parole doit pénétrer dans le cœur, doit toucher quelque chose. Si la parole de Dieu ne touche pas, ça veut dire qu'elle est émoussée, qu'il n'y a pas de vie, qu'elle n'a pas de force. Alléluia. Vous croyez ? Amen. Que Dieu nous bénisse. Vraiment. Donc une épée qui pénètre et qui sépare. Et si la parole est prêchée sous l'onction du Saint-Esprit, si elle est prêchée dans la vérité, je vous garantis qu'elle doit faire mal, ça doit toucher quelque chose. Et on peut dire, oui Seigneur, tu m'as fait grâce, mais ça doit toucher quelque chose. C'est ce que le message a fait. Vous y croyez ? Le message a fait cela. Voilà pourquoi beaucoup ne l'acceptent pas. Beaucoup sont dehors, ne l'acceptent pas, parce que ça fait mal. Voilà pourquoi ils sont toujours un peu romain, un peu dans l'esprit de Rome, babylonien, etc. Il n'y a pas une sortie totale, une séparation totale, comme on l'a écouté. Mais il y a une partie de l'épouse, des croyants, qui ont vraiment l'autorité de la parole de Dieu. Moi, j'y crois. Amen. Moi, j'y crois de tout mon cœur. Amen. J'y crois de tout mon cœur. Car encore aujourd'hui, il y a une parole efficace et puissante, parce qu'elle est ointe, elle est révélée, et parce que Dieu le veut comme ça. Dieu le veut comme ça jusqu'à la fin. Il n'y aura pas un autre ministère, un autre service, un autre Élie, un autre message. Non, non, non. Ça, c'est le dernier. Celui-ci, c'est le dernier. Que Dieu ouvre nos yeux et nous fasse grâce. Amen. Plus tranchante qu'une épée, quelconque a de tranchant, elle pénètre et sépare. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient, qui disent voir, deviennent aveugles. Jean 9, 39. Vous voyez la lame ? Jean 9, 39. Donc on va le relire dans nos propre Bible, Jean 9, 39. Vous l'avez tous, Jean 9, 39. Et Jésus dit, « Moi, je suis venu dans ce monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas, voient, et que ceux qui voient, deviennent aveugles. » Vous avez compris le parallèle? Alléluia. En restant ancré avec Rome, avec Babylone, on aura des difficultés à venir sur la loi de Moïse. On aura des difficultés à voir. On ne pourra pas voir. Mais si on enlève cette position-là, si on enlève cette position de pharisien, on pourra voir ce que le Seigneur voit maintenant. Transformé de jour en jour à l'image de Dieu. Dans Colossiens, c'est écrit. Moi, je le crois de tout mon cœur. Amen. Il va se présenter lui-même, une épouse sans tache, sans rides, sans rien. Sainte. Amen. Quelle bénédiction, mes amis. Quelle bénédiction. Il est écrit au 40, verset 40, « Et quelques-uns d'entre les pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces choses et lui dirent, « Et nous, sommes-nous aussi aveugles ?» Écoutez la question. « Et nous, sommes-nous aussi aveugles ?» Jésus leur dit, si vous, attention à cette phrase, si vous étiez aveugle, regardez la parole de Jésus, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Prenons un homme quelconque. S'il dit, je suis aveugle, là, il peut voir. Mais si on dit qu'il voit, alors là, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Donc, votre péché demeure. Ce sont des paroles très précises. Jean 15, 24. Et même, regardez Jean 9, 3. Regardez un peu. Jean 9, 3 d'abord. Jésus, vous souvenez pour la guérison de l'aveugle, hein? Jésus répondit, ni celui-ci n'a péché, ni ses parents, mais c'est, alléluia, gloire à Dieu, mais c'est pour ça que cet aveugle, il a dit, moi je ne sais pas, moi je ne m'occupe pas de ce que vous dites, je sais une chose avant, je ne voyais pas, maintenant je vois, amen, alléluia, vous voyez, avant il ne voyait pas, maintenant il voit, moi aussi, avant je ne voyais pas, catholique romain, maintenant je remercie le Seigneur. Dieu m'a fait grâce. Et il nous a fait grâce à tous. On peut voir la lumière avec clarté. Vous voyez? Ni lui ni ses parents, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Préconnu. Il nous a préconnus afin que nous puissions voir. Parce que maintenant, regardez, moi j'ai des lunettes maintenant. J'ai des lunettes. Sans lunettes, ça devient difficile. Et si le message qui est venu ne me donne pas une espèce de lunette, je ne peux pas voir. Le message, c'est comme une paire de lunettes, afin qu'on voit, qu'on comprenne et qu'on vive la parole de Dieu. Afin que nos yeux puissent s'ouvrir et voir. Parce qu'autrement, les yeux sont toujours dans l'obscurité et on ne peut pas voir. C'est comme ça. C'est pour ça que Dieu a restauré toutes choses. C'est pour ça qu'il y a aussi eu un autre serviteur, un autre ministère, le frère Franck est venu aussi, qui devait aussi venir pour compléter l'œuvre de Dieu dans cette époque-ci. Alléluia. Donc il faut des lunettes. Voilà. Et si je les mets, mes lunettes, je peux voir, je peux lire. Sinon, non. Je lis les Écritures, je viens avec la Bible, je peux lire, mais je la lis à la manière pentecôtiste, je la lis à la manière baptiste, à la manière romaine, à la manière charismatique, je la lis de diverses manières. Mais si je mets des bonnes lunettes, de vraies lunettes, je peux voir de la bonne manière. Les lunettes du message, je vois mieux. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je continue la lecture. Ah, je voulais encore lire Jean 9, on l'a lu ? Jean 9, 39 ? Oui, on l'a lu. Oui. Voilà, je voulais lire, pardon, le 15, 24. Jean 15, 24. Ça, c'est encore plus important ici. Écoutez bien. Jean 15, 24. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites, et c'est très important, ils n'auraient pas eu de péché. Vous voyez, Oral Roberts, Osborne, Tommy Hicks, tous ses frères, beaucoup de serviteurs de Dieu ont, l'autre, Billy Graham, ils ont tous vu les signes et les miracles accomplis par Dieu à travers le ministère de Frère Branham. À qui ils ont attribué cela ? À l'homme ou à Dieu ? Le frère Branham lui-même, pardon, Graham lui-même, il a dit. Donc, frère Branham, il a dit que quand frère Billy Graham va quelque part, il y a 1 million de personnes qui viennent, mais ensuite, il n'y a plus personne. Vous voyez cette parole ? C'est important. Donc, il y a eu des accusations contre frère Franck. Mais qui ? À voyager. Qui a apporté le message? Même en Amérique. Ils étaient tous bloqués. Ils ne savaient pas comment faire pour aller de l'avant. S'il n'y avait pas ce ministère que Dieu avait établi dès le commencement pour pouvoir faire avancer, faire aller de l'avant l'œuvre de Dieu. Donc je continue à lire. Jésus dit: si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant, ils ont et vu et haï, et moi et mon Père. Ils ont haï sans cause. Ils ont haï sans cause le Seigneur. Psaume 35. C'est écrit qu'il a été haï sans cause, et ils l'ont crucifié. Donc les miracles, ils ont été faits, c'est pourquoi la parole importante, qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? Voilà ce qu'est l'adoption, beaucoup de choses ont été révélées. Il y a une seule vérité biblique, qu'avant dans les autres âges, il n'y avait pas. Amen. Et si on voit le pape sans son manteau religieux, qu'est-ce qu'on voit? Nous, on est en Italie ici. On voit le pape qui se présente. On le voit avec un certain manteau, une veste. Il s'habille d'une certaine manière. Mais si on enlève ça, admettons que Dieu nous donne des yeux surnaturels, spirituels, surnaturels, pour voir comment est réellement une personne? Eh bien, on pourra voir. Il y en a des millions, des centaines de millions qui tous les dimanches. Maintenant, il y a le Covid, mais bon. Mais à la place Saint-Pierre, c'est plein, d'habitude. Donc, enlevons le manteau religieux. Et qu'est-ce qu'on a? Vous voyez? Que Dieu nous fasse grâce de voir avec les yeux de Dieu. De voir les choses comme Dieu les voit. Amen. Encore un autre passage dans Jérémie 23, 29. Jérémie 23, 29. On va bientôt s'arrêter dans Jérémie 23, 29. Le dernier passage ici. Thank you. Donc je lis. Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Alléluia. Alléluia. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous bénisse. Nous arrêtons ici. Nous reprendrons d'autres passages des Écritures jeudi prochain, Dieu voulant. Dieu nous bénisse. Voilà pourquoi il y a une sainteté qui vient de la parole et une sainteté hypocrite qui a la marque papa, vous voyez. Frère Franck écrit ça après. C'est le pape qui dirige l'Europe, le monde, et les autres, ils ont l'air de se taire. Amen. Alléluia. Nous allons nous arrêter. Il y a des frères qui sont rentrés et qui doivent travailler demain. Il y en a qui sont partis. Sœur Deborah est là. Que Dieu nous bénisse. Bénisse nos cœurs. Vous êtes tous là. Vous pouvez ouvrir vos caméras pour qu'on vous voit. Frère Patti, tu es là aussi, Dieu te bénisse. Voilà. Frère Gianfranco n'est pas là, il est pris. Que Dieu nous donne la force de continuer sur ce chemin. Le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité. Ce sont des déclarations très profondes. Vous sentez béni. Amen. Alléluia. Amen. Vous sentez la présence de Dieu qui vient parmi nous et qui bénit nos cœurs. Amen. C'est très important. Parce que c'est la vérité qui nous rend libres. Sinon, on ne peut pas être libre. Mais après, il y a encore d'autres perles, vraiment des perles précieuses après qui ont été cachées, qui étaient cachées dans le passé. Disons que l'Église catholique et les autres Églises avaient complètement caché tout cela. Alléluia. Voilà pourquoi encore aujourd'hui Dieu donne la liberté, nous fait grâce. Amen. Alléluia. Qui a un cœur de remercier le Seigneur? Alléluia. Qui veut prier? Quelqu'un qui veut prier? Ça dans son cœur de prier. Inclinons nos têtes. Père Tout-Puissant, nous te remercions de tout notre cœur pour tout ce que tu as fait pour nous et que tu continues à faire. Tu es venu pour révéler ta parole. Il est vrai, Seigneur, que nous voulons être obéissants en toutes choses. Nous voulons chercher la sainteté, la sanctification. La sanctification que toi, tu nous pousses, que toi, tu nous montres. Tu as été tenté quand tu étais sur terre en beaucoup de choses, mais tu as toujours été victorieux. Et l'ennemi a dû plier ses genoux, parce que tu répondais toujours avec ta propre parole. Et nous te remercions, parce que tu nous as révélé ta parole. Cette épée à double tranchant, qui arrive même à diviser les os, la moelle, le bien, le mal, Mais nous voulons être purifiés. Nous voulons que ta parole, Seigneur, jour après jour, puisse pénétrer dans nos cœurs, dans notre vie, afin qu'il n'y ait plus d'espace pour la seule trace de péché. Nous te remercions, Seigneur, encore ce soir, parce que tu as parlé, Seigneur, comme on a pu le voir, ce que tu as fait encore dans ce siècle. Nous savons que tu es le même hier et aujourd'hui éternellement. Seigneur, nous aimons ta parole, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous te demandons de continuer ton œuvre dans ton Église, afin que nous puissions arriver à la stature parfaite de l'homme et que nous puissions abréger les jours. Que tu puisses venir bientôt, parce que c'est ce que nous désirons, que tu viennes bientôt et que tu nous ramènes à la maison. Et dans l'autre temps, aide-nous, afin que nous puissions annoncer ta parole. Ta parole qui est propre, qui bénit, qui guérit, qui purifie. Ta parole qui est parfaite. Aide-nous, afin que nous puissions être avec et suivre cette parole, et que nous puissions l'élever au-dessus de tout, au-dessus de notre propre vie. Seigneur, vivre sans toi, ce serait vraiment misérable, Seigneur. Nous te remercions. Nous te prions, Seigneur, pendant la fin de cette journée, de nous bénir encore, afin que nous puissions, même dans nos lits, que nous puissions continuer à méditer ta parole. Aide-nous à produire ce qui est nécessaire. Aide-nous à faire vivre ta parole en nous. Bénis ton Église. Bénis chacun d'entre nous. Aide-nous et donne-nous, Seigneur, ta guide du Saint-Esprit. Bénis encore tout ton peuple, tous ceux qui ont écouté. Bénis tous ceux qui invoquent ton nom. Et bénis encore le peuple d'Israël. Accorde-nous toutes bonnes choses dans le nom saint et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est vrai que c'est toujours difficile derrière cet ordinateur, cet écran. Mais on est dans la présence de Dieu de toute façon. Parce que ce ne s'agit pas d'écran, de PC, d'ordinateur, mais il s'agit de ton cœur et mon cœur. Il s'agit des cœurs. Il s'agit de cela. La présence de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous, qu'il nous donne la force jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à dimanche. Ce sera en direct de Zurich. Mais qui sera fait depuis Krefeld, mais quoi qu'il en soit, celui qui se sent pourra revenir de toute façon sur la plateforme s'il veut, si elle le veut, pour partager. Dieu vous bénisse.